Bonjour à tous, il est 11h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
À la une, la trêve va-t-elle tenir au Proche-Orient? La défense civile palestinienne fait état d'un bombardement d'artillerie israélien près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Et Israël bloque de nouveau l'aide humanitaire en direction de l'enclave. Britanniques et Français travaillent sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. Le message est clair, la paix ne peut se conclure qu'en concertation avec Kiev. Londres et Paris sont à la manœuvre alors que les alliés de Volodymyr Zelensky se réunissent dans la capitale britannique pour trouver la parade face au rapprochement de Washington et de Moscou. Enfin, nous évoquerons la cérémonie des Oscars et la chute vertigineuse d'Emilia Pérez, promis il y a quelques semaines encore à un avenir américain. Un brillant, le film de Jacques Audiard pourrait repartir bredouille ce soir. Le ton monte au Proche-Orient ce matin et il y a quelques minutes, la défense civile palestinienne a fait état d'un bombardement d'artillerie près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Israël dit vérifier ces informations. La situation est très tendue depuis quelques heures. Ce matin, le Hamas prévenait qu'Israël portait la responsabilité du sort des otages après la décision de l'État hébreu d'empêcher de nouveau l'entrée des convois de marchandises dans la bande de Gaza. Une violation flagrante des accords de cessez-le-feu, dit le Hamas, qui conteste la décision israélienne de prolonger la première phase de la trêve face au blocage des négociations au Caire. Cette première étape devait se terminer hier, mais Israël a décidé de l'appliquer encore jusqu'à mi-avril, avec l'aval de Washington. En attendant, dans l'enclave palestinienne, les conditions de vie sont toujours aussi précaires après 15 mois de guerre. En plus de l'aide humanitaire, les tractopelles sont toujours au point d'entrée de Gaza. D'immenses tas de déchets s'accumulent, faute d'avoir pu être évacués, et menacent la santé de la population. Reportage de Rami El-Megari sur place et de Pierre-Olivier à Jérusalem.
Au beau milieu de la ville de Gaza, la place de Fras Market s'est transformée en décharge à ciel ouvert. Noyée dans les déchets, une tractopelle hors d'âge, au mouvement saccadé s'affaire, la dernière encore en service à des kilomètres à la ronde. Mohamed Alachi est le chef du ramassage des ordures de la ville de Gaza.
Vous voyez tous ces déchets solides, liquides, tout ne brûle pas. Sans matériel approprié, on ne peut pas les déplacer. Ça entraîne la prolifération d'insectes, d'odeurs et de maladies. Beaucoup de personnes habitent autour. C'est très dangereux.
Justement, non loin de cette déchetterie à ciel ouvert, Teba Abou Nahel vit sous un abri de fortune à même le sol.
Il n'y a que des femmes dans cette tente, pas d'hommes. Alors on a toujours peur qu'une souris ou autre chose rentre à l'intérieur. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Je suis malade en plus, j'ai du diabète, de l'hypertension. Regardez mes mains.
Pendant près de 15 mois, la présence de l'armée israélienne à l'est de l'enclave a empêché l'évacuation des déchets vers les décharges existantes. Les habitants attendent donc maintenant des dizaines de tractopelles pour pouvoir y déplacer ces montagnes de déchets. Rami El-Megari, Gaza, Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Plus au nord en Syrie, les nouvelles autorités de Damas peinent toujours à ramener l'ordre dans plusieurs régions du pays. Des affrontements les ont opposés à des combattants druzes près de la capitale hier à Jaramana, faisant un mort. Restaurer la sécurité est un enjeu majeur du nouveau pouvoir, d'autant plus qu'Israël menace toujours d'intervenir. Reportage de notre correspondant Mohamed Emar et Rami.
Après des affrontements armés dans la région de Jaramana, au sud de la capitale syrienne Damas, de nombreux habitants se sont retranchés chez eux par crainte des tirs violents. Quant à des centaines d'autres habitants de la zone, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, comme Ali Sayed.
Quand le combat et les tirs cesseront-ils dans le pays? Nous en avons assez après toutes ces années de guerre. Aujourd'hui, je suis obligé de dormir loin de chez moi et de laisser ma femme et mes enfants seuls à la maison. Les forces de sécurité ne devraient pas être impliquées dans des affrontements armés dans les zones civiles. Nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi devrais-je fuir la guerre et dormir loin de ma famille et de ma maison?
La nouvelle administration syrienne a déployé des centaines de combattants dans la région de Jaramana, tandis que les miliciens druzes ont renforcé leur position pour faire face aux forces de police et de l'armée, selon le chef druze, Rabih Munzir.
Nous vivons ici et nous n'avons jamais demandé la protection de quiconque. Nous sommes des citoyens arabes syriens qui habitons cette terre depuis des siècles et nous avons de bonnes bonnes relations avec nos voisins. Nous resterons toujours ainsi.
L'administration nouvellement en place a installé des points de contrôle autour de Jaramana et a donné aux Druzes un ultimatum de 5 jours pour remettre leurs armes aux autorités gouvernementales. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Il était prévu avant la violente prise à partie de Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Depuis, le sommet à Londres semble encore plus crucial. Britanniques et Français travaillent sur un plan de cessez-le-feu aux côtés des Ukrainiens. Hier, c'est dans une ambiance chaleureuse que Volodymyr Zelensky a échangé avec le Premier ministre britannique, loin des invectives de Donald Trump. Et aujourd'hui, autour de Keir Starmer, une quinzaine de dirigeants alliés de Kiev, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Canada, ont pour mission d'imaginer de nouvelles garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe face au rapprochement entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Volodymyr Zelensky sera présent au sommet. Les attentes des Ukrainiens sont grandes. À Kiev, Emmanuel Chaz.
Pour les Ukrainiens, l'altercation de leur président avec Donald Trump n'a fait que précipiter l'urgence de voir l'Europe et les autres alliés de l'Ukraine se substituer aux États-Unis en matière de défense continentale. Ils espèrent donc que les pays réunis à Londres pourront s'en donner les moyens. Des signes positifs sont apparus dès lundi et la réunion de dirigeants alliés de l'Ukraine à Kiev devant le changement de politique de Washington et même avant la rencontre désastreuse de la Maison-Blanche. Tous ont compris ici qu'il faudrait œuvrer à la défense de l'Ukraine et de l'Europe à un rythme bien plus accéléré. Les Ukrainiens aujourd'hui attendent de voir concrètement quelles annonces seront possibles côté européen. Cela passe de l'aide militaire avec des véhicules, des munitions, de la défense aérienne à d'autres mesures comme l'entraînement de soldats ukrainiens ou l'établissement d'une force de maintien de la paix pan-européenne qui pourrait être envoyée en Ukraine. Tout cela cependant est à mettre au conditionnel puisque pour l'instant la paix est très loin d'être achevée en Ukraine et que l'Europe doit d'abord se donner les moyens de sa propre défense. Emmanuel Chaz, Kiev RFI.
Sur la défense européenne, justement, Emmanuel Macron appelle au réveil stratégique du continent face aux incertitudes du soutien américain. Dans une interview à la presse écrite ce matin, le président français insiste sur la nécessité pour les 27 de financer massivement une défense commune. Si Vladimir Poutine n'est pas stoppé, ajoute-t-il, Moscou poussera ses troupes jusqu'à la Moldavie, voire même jusqu'en Roumanie. À la demande de Friedrich Merz, Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir la discussion sur une éventuelle future dissuasion nucléaire européenne. Une révolution pour un dirigeant conservateur allemand très atlantiste. Le futur chancelier juge nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario d'une OTAN lâchée par Washington. Aux États-Unis, le tapis rouge est déjà déroulé à Hollywood. La cérémonie des Oscars aura lieu ce soir pour récompenser les films de l'année. Anora et Conclave sont au coude à coude pour le prix du meilleur long métrage. Emilia Pérez de Jacques Audiard pourrait repartir bredouille, plombée par les tweets racistes et islamophobes de son actrice principale. Au Mexique, pays où se déroule l'histoire de ce narcotrafiquant devenu une femme, le film en espagnol n'a pas eu le succès escompté. Marine Le Bègue.
Dans une librairie de Mexico City, Amelia Flores, 25 ans, s'installe sur l'une des chaises disposées en cercle. Comme chaque semaine, la table ronde sur la place des personnes transgenres au Mexique est sur le point de commencer. Mais à l'approche de la cérémonie des Oscars, la conversation dérive rapidement sur le film Emilia Pérez.
Ils montrent sa transition comme si c'était quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais une transition, ce n'est pas seulement une opération, c'est une transition sociale, hormonale. Dans le film, on a l'impression que pour être femme, il suffit juste de se faire opérer. Moi, je suis sous hormones depuis 3 ans et les changements sont déjà énormes. Une opération ne rend pas plus femme.
Une opération ne définit si c'est plus femme ou non.
Amelia Flores est catégorique. Le film n'a pas aidé sa communauté déjà peu et mal représentée au Mexique.
En revanche, je me suis rendu compte que ça a attiré l'attention de certains de mes oncles ou de mes proches sur le sujet, qu'il y avait une femme trans dans un film qui va gagner plusieurs Oscars. Donc oui, ça a créé un débat, mais ça a été mal amené et le film romantise trop la violence.
Car il ne faut pas oublier, rappelle Amelia Flores, que le Mexique reste le deuxième pays du monde où le plus de personnes transgenres sont assassinées. Marine Le Bègue, Mexico RFI.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Religion du Monde.